des livres pleins les oreilles, seconde partie. La retraite à 40 ans, c'est-il possible? Oui, dit et écrit Jean-Sébastien Pilote, qui me fait aussi la joie de répondre à quelques-unes de mes questions de soixantenaire, pas pressé de la prendre, sa retraite. Et puis, je vais échanger quelques mots avec Hélène Denis, que vous connaissez bien si vous êtes des habitués de Canal M, animatrice de l'émission matinale au quotidien, c'est vrai, mais ce n'est pas son seul talent. Vues et Voix a fait appel à ses services de lectrice pour quelques livres de développement personnel, comme « Les 7 étapes du lâcher-prise » de Colette Portelance. Bon, la retraite à 40 ans. Attention, livre qui s'adresse aux jeunes. Hein. Pour nous, c'est foutu quasiment. N'est-ce pas, mon bon ami Jean-Sébastien Pilote?
Oui, bonjour.
Bonjour. Comme, ouais. Oui, bien sûr que je suis encore jeune. Mais moi, je suis déjà millionnaire, alors je vais les... Pourquoi vous riez? Alors, la retraite à 40 ans. On s'entend, Jean-Sébastien Pilote, que ce titre ne reflète pas vraiment ce que vous voulez nous transmettre. Ce que vous voulez nous dire, c'est que retraite, ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais ça veut dire bénéficier d'une liberté financière.
En effet, moi, quand je parle de retraite, c'est pas dans le sens traditionnel du terme, où on définissait plus comme la fin de la vie active. Moi, j'ai plutôt envie de le dire comme un deuxième chapitre de sa vie. Puis ce que je prône dans mon livre, c'est surtout l'indépendance financière. Alors, c'est la liberté de choisir, de faire ce qu'on aime dans la vie, d'aller au bout de nos passions, d'avoir du temps, puis de se réaliser autrement que dans un cubicule de 9h à 5h.
Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on reprenne quelques points importants qui vont peut-être titiller non seulement les oreilles, mais l'âme et l'esprit de nos auditeurs, et qui vont peut-être se plonger du coup dans votre bouquin à écouter, parce que maintenant il est en livre audio dans notre catalogue de chez Vues et Voix. Alors, si je vous dis « Au diable les bébelles », « Au diable le superflu », est-ce que c'est essentiel?
Ben évidemment pas, non. Ce qui arrive, c'est qu'on vit dans une société de consommation, même de surconsommation.
Oui.
Alors, chaque jour, on est exposé entre 3000 et 4000 messages publicitaires qui nous invitent à dépenser, à consommer, à acheter du matériel. Mais justement, le bonheur n'est pas là-dedans, au contraire.
Non. C'est, donc, moi, au diable les bébelles.
Au diable les bébelles, je suis d'accord avec vous.
Chasser ces dettes que je ne saurais payer.
Chasser ses dettes, c'est la même chose. Les gens s'endettent pour consommer. Alors, au Québec, même au Canada, la dette moyenne de consommation est d'environ de 20 000 $ par ménage. Donc, c'est immense. Donc, souvent, les gens consomment sans avoir les moyens de le faire. Ils achètent une voiture neuve à crédit. Ils achètent des meubles à crédit. Ils achètent une télé à crédit. Alors, moi, ce que je dis dans mon livre, essentiellement, c'est qu'on n'a pas les moyens d'acheter quelque chose, mais on ne l'achète pas, on attend. Il faut faut patienter d'avoir les moyens de le faire.
Mm-hmm. Mais oui, puis vous parlez aussi justement de la richesse et vous dites que les millionnaires, ce ne sont pas ceux qu'on voit à la télévision. Ce sont pas des gens qui ont l'air de péter dans la soie comme ça, qui ont l'air, tu sais, qui s'allument un gros cigare avec un billet de 100 piastres. C'est pas ça. Être millionnaire, c'est avoir la liberté de choisir, de pouvoir s'offrir ou pas des choses, à commencer par du temps.
Du temps, puis les études le montrent, hein. Les gens qui sont les plus riches de notre société ne sont pas les gens les plus exubérants. Ce n'est pas nécessairement les gens qui vont se balader en Porsche au centre-ville,
non,
ou qui vont avoir des maisons immenses en banlieue. Alors, les gens qui deviennent millionnaires, je parle évidemment de ceux qui bâtissent eux-mêmes leur richesse plutôt que ceux qui en héritent, mais ceux qui bâtissent eux-mêmes leur richesse le font souvent à travers le frugalisme. Alors, c'est des gens qui sont très rationnels au niveau économique. Ils dépensent juste sur les objets qui ont de la valeur pour eux. Ils ont tendance à moins s'endetter, puis non plus, ils dépensent pas de façon superficielle ni ostentatoire.
Mm-hmm. Et le temps, c'est la richesse absolue, dites-vous aussi dans ce livre-là, La retraite à 40 ans.
Ben, le temps, c'est la richesse absolue, puis c'est à peu près la seule ressource pour laquelle on est tous égaux. Alors qu'on soit milliardaire, qu'on soit pauvre, qu'on vive n'importe où dans le monde, on a tous le même temps. On a à peu près 30 000 jours à vivre sur Terre. Alors, ceux qui choisissent de le passer dans un bureau ou dans un emploi qu'ils aiment plus ou moins, ben c'est leur choix. Mais moi, ce que je prône vraiment, c'est d'avoir la liberté de faire ce qu'on aime dans la vie puis d'être plus maître de notre temps, justement.
Mmh. Un sou de côté, d'après vous, c'est un million à venir? Un sou de côté pour un jeune enfant, c'est un million à venir?
Peut-être pas un sou. Par contre, c'est les dollars qui s'accumulent. Mmh. Puis les petits montants finissent par devenir grands avec les intérêts composés.
Oui.
Alors, c'est sûr que le temps, c'est la variable la plus importante dans l'enrichissement. Oui. Il n'y a pas vraiment de raccourci pour devenir riche.
Oui.
Les gens
oui.
cherchent constamment la recette miracle, trouver un livre qui va leur montrer la recette pour devenir riche, assister à des conférences, lire des livres. Mais en réalité, c'est tout bête. C'est juste d'épargner, de placer son argent, puis d'être patient.
Ça veut dire que, par exemple, si, imaginons, j'ai 35 ans de moins, j'ai deux petits-enfants en bas âge. Vous me recommandez, pour mes enfants, de déjà épargner pour eux?
Si vous avez la capacité de le faire, oui.
Oui, mais je ne sais pas, moi, ne serait-ce que 10 piastres par semaine pour chacun, par exemple.
Ben oui, absolument. Même les petits montants valent la peine d'être épargnés.
Oui.
Puis en plus, au Québec, on a la chance de vivre dans un paradis fiscal pour les familles, dans le sens que beaucoup de programmes gouvernementaux, comme le régime d'épargne études,
bon.
qui va être subventionné au minimum à 30 %. Alors, si vous mettez 1 $ ben le gouvernement va ajouter 30 sous. Mmh. Alors déjà là, vous êtes gagnante de 30 %, puis avec le temps, avec les intérêts composés, ben ce montant-là va grandir, puis... C'est le temps qui fait la richesse.
Jean-Sébastien, tu prends des notes? Hein? Jeune papa devant moi. On va écouter un extrait hein, de votre livre qui est donc, je le disais, désormais en audio et au catalogue de Vues et Voix. La retraite à 40 ans, signé Jean-Sébastien Pilote.
Imaginez un instant que votre vie est une entreprise. Vous êtes le grand patron de Yves Remort Incorporé. Vous gérez ainsi une PME qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 50 000 $ votre salaire, que des créances, l'hypothèque et de nombreuses dépenses opérationnelles à couvrir, l'épicerie. Je vous place maintenant devant le conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle. Vous devez répondre aux questions pointues des membres du conseil pour justifier votre rôle de PDG. On vous bombarde. Quel est le montant du budget resto cette année? Quelle est la valeur de l'entreprise? Quelles dépenses ont augmenté et pourquoi? Quelles dépenses sont compressibles en cas d'une perte d'emploi? Le fonds d'urgence couvre combien de mois de dépenses? Combien d'années reste-t-il avant la retraite? Vous vous sentez sans doute petit dans vos souliers. Pourtant, un chef d'entreprise devrait connaître ces données essentielles sur le bout de ses doigts. Si la seule réponse qui vous vient en tête est « Je vais contacter mon banquier », vous êtes viré. Viré de votre propre vie. Vous devrez redémarrer votre compagnie sous un autre nom. Par exemple, Yves Remort 2000 Incorporé. Blague à part, très peu de Québécois sauraient répondre à ces questions pourtant rudimentaires. L'analphabétisme financier est un fléau au Québec. La preuve, entre 1990 et 2008, la croissance des dépenses des ménages a été deux fois plus rapide que celle de leurs revenus, tandis que la croissance de leur endettement a été six fois supérieure.
J'aime beaucoup cet exemple. Bon, d'abord, préciser que c'est la voix d'Alexandre Lheureux qu'on entendait lire votre livre. J'aime beaucoup cet exemple, cette comparaison avec un chef d'entreprise. Chef de famille égale chef d'entreprise, mais même étant, si on est nous-mêmes, notre propre petite entreprise, quoi.
Ben oui, chaque ménage québécois est en fait une PME.
Ah oui.
On a des revenus, on a des dépenses, puis c'est. Par contre, il y a très peu de gens qui sont informés de leurs finances personnelles.
Hey.
Puis comme on disait dans l'extrait, il y a très peu de gens qui sont conscients de leur avoir, de leur budget, de leur niveau de dépenses. Alors pour moi, c'est la première étape, c'est de prendre conscience de ça. Puis il y a tellement de gens que je rencontre qui pourtant ont des emplois, sont des professionnels, ils ont des emplois prestigieux, ils gèrent des millions de dollars en budget par année. Mais leurs finances sont tout croche.
Ouais,
si on regarde les finances personnelles, ils ne savent même pas quel est leur montant des dépenses annuelles. Alors, pour moi, c'est vraiment la première étape vers l'indépendance financière.
On peut dire que vous appelez un chat un chat. À un moment donné, j'ai lu « Se démerder quand ça chie dans le col ». Voilà, les choses sont... J'adore d'abord cette expression, mais en fait, c'est... c'est ça, en fait. Il faut bien se démerder quand ça chine en col. Et à mon avis, alors, bon, quand ça chine en col, ben, c'est quand on n'a pas prévu quoi, tout ça, puis que finalement, on se ramasse, c'est ça, criblé de dettes et tout ça, quoi.
Oui, je pense que c'est un peu pour faire un peu un électrochoc.
Oui.
Sans vouloir être moralisateur ou arrogant, mais c'est vraiment, j'ai le goût de secouer un peu les Québécois.
Oui.
Puis de les inciter peut-être à prendre les choses en main.
Oui, puis vous avez un autre exemple, je trouve, qui nous incite peut-être à prendre les choses en main. C'est quand vous mettez l'exemple de mettre en bourse l'équivalent d'un café latte à la vanille le matin. Bon, mettons entre 4 et 5 piastres avec le pourboire. Au bout de 10 ans, ça donne 26 000 $. C'est un exemple qui fesse, hein? 26 000. Oui?
Oui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le coût de renonciation. Alors, quand on fait une dépense à chaque jour comme ça, non seulement on dépense le 5 $ pour payer le café, mais on renonce à un investissement de 5 $ qu'on aurait pu placer en bourse, que lui aurait fructifié pendant toutes ces années-là.
Ouais.
Alors, il faut toujours voir chaque dépense comme une renonciation. Alors, on renonce à un investissement potentiel. On renonce à peut-être une liberté financière. On renonce peut-être à un voyage autour du monde qu'on aimerait faire. Mmh. On renonce à une année sabbatique.
Mmh.
Alors, c'est plus le remettre les choses en perspective.
Oui, oui, oui. Vous avez deux ennemis, la voiture et les banques.
Oui.
Ah non, mais moi, là, je vous cite. Hein.
La voiture, d'abord, c'est le plus gros destructeur de richesses au monde.
La banque aussi, non?
Oui, la banque aussi, mais au moins, il offre un service. Tandis que la voiture, c'est sûr que ça offre un service, une facilité, mais on dépense beaucoup trop sur la voiture. Les gens dépensent en moyenne 8 000 par année sur une voiture neuve. Alors ça, c'est un montant, selon moi, démesuré, surtout quand on s'endette pour le payer.
Mais oui.
Puis la même chose pour les banques. Les banques... Il faut comprendre que les banques sont des entreprises privées qui doivent maximiser leurs profits. Alors, quand vous allez pendant la saison des REER, en guillemets, pour avoir des conseils financiers, ben soyez juste conscient que le conseiller financier est un vendeur qui est payé à la commission en partie, puis qu'il y a des impératifs de vente.
Ouais.
Il doit vendre des produits financiers, puis il doit maximiser le profit de l'entreprise pour laquelle il travaille.
Ouais, c'est vrai. Soyons conscients de cela. Je n'ai pas vu dans le bouquin, est-ce que vous parlez des compagnies d'assurance?
Un petit peu.
Un petit peu, hein? Ouais. Bon, alors ouais. ça m'a échappé, parce que ça aussi, dans le genre, je trouve, faites-vous bien ponctionner votre fric, plutôt peut-être de prendre soin d'en mettre de côté s'il arrive un emmerde, non?
Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'assurance santé pour l'instant. Par contre, peut-être que je devrais réviser plus vieilli, mais
bien sûr.
Il reste que les assurances sont en partie obligatoires aussi au Québec. Alors, c'est un peu un mal nécessaire, mais l'important, c'est de négocier à chaque année au moment du renouvellement, c'est de les contacter, essayer de peut-être contacter une autre entreprise, essayer de créer un peu de concurrence entre les offres.
Bien sûr.
Dès qu'on oublie cet aspect-là, ben c'est sûr que le taux augmente à chaque année.
Bien sûr.
Puis c'est pas elles qui vont nous appeler pour nous offrir une réduction.
Non, non, absolument pas. Vous avez raison. Jean-Sébastien Pilote, je rappelle le titre de son livre, La retraite à 40 ans, qui ne nous incite pas à arrêter de travailler, mais qui nous incite, et ce, dès notre plus jeune âge, à penser qu'à un moment donné, si on a la liberté de tout faire et d'acheter réellement ce dont on a besoin, c'est une forme de retraite, une pré-retraite très agréable à vivre. Voilà, maintenant, le livre est en audio et je parlais avec Jean-Sébastien Pilote. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Ça m'a fait grandement plaisir.
Je vous en prie, allez, au revoir.
Au revoir.
Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, ma vieille. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête aux béquilles. Tiens, voilà le bout de la rue, on souffle comme qu'il aurait cru, du temps qu'on vivait à grands pas, du temps qu'on leur en voulait pas, aux étoiles de disparaître, la retraite. T'as beau dire qu'on nous rend le cœur une fois vidé du meilleur. Ils ont pris le tronc et la force qui ne rapporte que l'écorce. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette, la retraite. Tout ici à la soixantaine, ce café-là sent la verveine. Je t'aime, enfile ses chaussons, la mangette, ses paillassons. Et la tête tourne soudain à relire le papier peint où mille fois des chasseurs tuent un grand cerf qui cherche l'issue entre la porte et la fenêtre, la retraite. Il paraît qu'à un certain âge, plus ou moins l'esprit déménage et qu'on a la raison qui tangue et des cheveux blancs sur la langue. Nous, on doit être centenaire, à rêver du bout de la terre, avoir des envies de Pérou et entendre au-dessus du taureau ce bruit de pelle décongelte, la retraite. Le soir descend, partons d'ici, faudrait pas qu'il nous trouve assis. Si on larguait nos bibelots, tout tiendrait dans un sac à dos. Regardons tant le bras et hop, ils appellent ça l'autostop. Tant pis si on n'a pas de jean, si cette conne s'imagine qu'avec elle le cœur s'arrête, la retraite. Adieu le lit, salut Madrid, on pose pas longtemps nos rides. Pour peu qu'on se démerde bien, on sera à Tolède demain. À regarder des ombres lentes, éteindre les maisons brûlantes. Salut l'orange sur la cour, salut la paresse des jours. J'avais hâte de te connaître, la retraite. Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, la vieille.
Alain Leprest, en écho à cette entrevue que m'a donnée Jean-Sébastien Pilote autour du livre « La retraite à 40 ans ». Ce n'est pas demain qu'elle prendra sa retraite parce qu'elle aime bien trop sa vie et son métier. Hélène Denis, bonjour.
Bonjour Clotilde, ah. Vous avez bien raison, le mot retraite ne fait pas partie de mon vocabulaire.
Je m'en doutais, là je me suis dit j'espère qu'elle ne va pas penser que j'ai mis cette chanson-là. On s'entend que c'était parce que ça collait avec le sujet d'avant, mais pas avec le sujet d'après.
D'accord. Je suis paranoïaque, mais pas à ce point-là.
Alors Hélène, votre voix nous est vraiment connue et on l'apprécie beaucoup. C'est la voix du matin, c'est la voix qui nous informe, c'est la voix on pense aux personnes non-voyantes et même à tous ceux qui ont envie peut-être d'entendre ce qui se dit, ce qui s'écrit. Eh bien, ces gens-là vous écoutent religieusement tous les matins à Canal M. Et je me demandais comment une femme comme vous, donc une femme de mots, forcément vous aimez les mots, vous aimez la langue française, vous aimez la bien parler.
On a des points communs, n'est-ce pas?
Ah, oui, absolument. Mais je me dis, mais comment vous en êtes arrivée là? Quel a été votre parcours, Hélène Denis?
Il était une fois.
Ouais.
Alors, c'est un peu classique comme scénario. Je fais partie du club des grands timides. Et puis un jour, je me suis retrouvée sur une scène devant un public. C'était obligatoire, là, c'était à l'école secondaire. J'avais joué dans une pièce de théâtre. Je me souviens que c'était une pièce de Félix Leclerc. Et puis j'ai constaté que le théâtre me permettait de me cacher derrière un personnage. Et j'ai remarqué que ma présence passait pas inaperçue. Que même quand je parlais, je sentais une attention envers moi et c'était extrêmement valorisant. Alors, ensuite, ben, j'ai voulu poursuivre, n'est-ce pas, hein, quand on est bien en quelque chose. Puis j'ai découvert le théâtre. À travers le théâtre, j'ai découvert des œuvres, des auteurs, des auteureux. J'ai joué après jusqu'à l'université. J'ai fait partie de troupes semi-professionnelles, devrais-je dire. J'ai joué dans du Michel Tremblay, Marie Laberge, dans du Ionesco, Jean Tardieu, même Shakespeare. j'ai joué dans du Racine. Donc, oui. J'étais en contact justement avec les mots, avec la langue française, les grands textes qu'il fallait que je lise, qu'il fallait que je dise. J'ai suivi beaucoup de cours, de poses de voix. Et ensuite, j'ai fait un bac en études françaises où là, ben, je me suis plongée dans la littérature. J'ai lu. J'ai ensuite fait une formation en radio-télévision parce que, bon, le théâtre m'a permis de m'épanouir.
Oui, sortir de votre coquille.
Tout à fait. Et de comprendre que j'aimais être en contact avec les gens. J'aimerais être communicatrice d'une certaine façon, mais là, en vieillissant, je me suis dit, j'ai plus envie de me cacher derrière un personnage. J'ai le goût de communiquer en tant que Hélène Denis. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'a amenée à étudier donc à ProMédia, en radio-télévision.
Oui, oui, oui.
Puis après, comme bien des gens qui font le métier maintenant.
Ben oui, absolument. Oui. Et c'est ce qui vous a amené derrière le micro à devenir une véritable dévoreuse, mais surtout une partageuse d'actualité.
Absolument.
Mais vous êtes toujours une dévoreuse de livres, parce que la lecture à haute voix fait partie intimement de votre vie. Vous avez, et vous animez même encore, des activités littéraires, des soirées de lecture, tout ça.
Oui, oui. Mais dévoreuse, je pense que c'est pas exagéré, là, c'est probablement le beau mot juste, parce que je vous parle à côté de ma table de chevet et je suis en train de lire Les Grands Oubliés d'André Picard pour une entrevue à mon émission au quotidien.
Oui.
Pour L'amour de ma mère de Boucard Diouf.
Oui.
Pour un atelier littéraire que je donne dans une bibliothèque de la ville de Montréal. Et puis pour mon plaisir, Le cœur synthétique de Chloé Delhomme qui vient de remporter le prix Médicis. Mais celui-là, je vais le lire quand je vais avoir le temps, là. Mais
alors,
et justement, pour mon émission de radio, ben, je lis les quotidiens, les journaux, les magazines, des livres pratiques, des biographies, des documents de presse. Et j'adore ça.
Alors, c'était écrit dans le ciel qu'à un moment donné, Vues et Voix, vu que vous êtes à Canal M, que Vues et Voix allez vous récupérer en vous disant, dites donc vous qui lisez comme ça beaucoup et si bien, ça vous tenterait pas de faire un petit peu de lecture pour nous? Et vous avez dit oui.
Oui.
Et donc, moi, parfois, je vous vois, oui, dans le studio de radio, mais aussi dans les studios, dans les cabines d'enregistrement. Et je me suis aperçue, en regardant la liste des titres que vous avez lus, que les livres de développement personnel semblent vous échoir souvent.
Absolument. Et ce n'est pas mon choix, nécessairement, Clotilde.
Non,
mais je suis contente. Je suis contente. Ben, jusqu'à maintenant, étant donné que je fais de la radio à temps plein, 5 jours sur 7, vous l'avez déjà fait, vous savez ce que ça représente.
Oui.
Je peux pas en faire plus, ou j'aimerais en faire plus, mais pour l'instant, c'est difficile avec les ateliers, clubs de lecture, etc. Mais j'ai quand même eu le plaisir, oui, de me retrouver en cabine et de faire de la lecture à haute voix, chose que j'adore.
Ben oui.
Et les livres de développement personnel, bon, jusqu'à maintenant, j'en ai lu 4, tous écrits par Colette Portelance, Les 7 étapes du lâcher prise.
Oui.
J'ai mis le titre devant moi, Vivre en couple et heureux, c'est possible, Relations d'aide et amour de soi, et La communication authentique.
J'ai envie, si vous me le permettez, parce que vous savez ce que c'est qu'une horloge qui tourne quand on fait le métier de la radio, et là, l'horloge tourne, et oui, ça va très vite, et ça m'embêterait qu'on n'entende pas au moins un extrait d'un de ces 4 livres dont vous venez
avec
de parler. C'est un extrait Les 7 étapes du lâcher-prise. C'est signé Colette Portelance aux éditions Cram, et c'est une production Vues et Voix, lue par Hélène Denis, à qui je parle. Extrait.
Lâcher prise, un mot qu'on entend presque tous les jours ces temps-ci. Un mot passe-partout qui semble avoir l'effet magique de transformer l'impuissance en ouverture sur tous les possibles. Un mot qu'on prononce comme une promesse de libération et de soulagement de tous les maux. Lâche prise, me dit mon collègue qui me voit stressé. Lâche prise, me répète l'ami qui me sait angoissé. Lâche prise, me conseille l'inconnu qui me sent apeuré. Lâche prise, me rabâche la petite voix intérieure quand je suis irritée ou que je me sens nulle. Lâcher prise. Quel mot abstrait. Aussi abstrait que les expressions vie intérieure et guérison de l'âme. Je veux bien lâcher prise, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Cette réflexion que j'ai entendue à plusieurs reprises m'a un jour interpellée, parce qu'elle rejoignait ma propre expérience. À mon impuissance à résoudre les difficultés qui me faisaient souffrir à ce moment-là, s'en ajoutait une autre, celle d'ignorer comment lâcher prise. Je voulais bien m'adonner à cette pratique reconnue pour son efficacité, mais je n'y arrivais pas. Certains jours, j'aurais voulu qu'on me fournisse une marche à suivre pour m'y conduire pas à pas, tellement j'avais besoin d'aide.
Le lâcher prise, hein, Colette Portelance. Vous nous parliez tantôt d'un atelier littéraire. Est-ce qu'on peut en faire la promotion?
Oh, bien, avec grand plaisir. Les ateliers s'appellent Les mots partagés. Ça existe depuis plusieurs années. Moi, je les anime depuis au moins 12-13 ans. C'est une activité qui a été mise sur pied par les bibliothèques de la Ville de Montréal. Et ce sont des rencontres autour du livre. On se rencontre une fois aux deux semaines. Mais mon horaire me permet de le faire en soirée. Mm-hmm. Et puis, les participants sont invités à lire le livre. On lit tous le même livre. On partage nos impressions de lecture. Puis ensuite, je propose des jeux d'écriture. Et puis, de ces temps-ci, évidemment, avec la pandémie, mais ça se fait par Zoom. Mais ça se fait mieux que je ne l'aurais cru. Puis les participants, ce sont des personnes qui sont soit nées ici ou soit nées ailleurs. Donc, on veut provoquer des rencontres. Et ce sont tous des gens quand même qui maîtrisent assez bien le français pour être capables de lire et d'écrire un peu. Mais tout se fait dans le plaisir, dans l'écoute, dans le respect, j'allais dire dans le lâcher prise.
Oui. Parlons-en. Alors, c'est même pas un projet, c'est 12 ans que vous faites ça, mais bravo.
Oui,
c'est vraiment épatant.
J'aime beaucoup ça. Ça me permet de rencontrer des gens. C'est ce que j'aime le plus, moi, être en contact avec les êtres humains.
Ben oui.
Et puis, ça me permet aussi de découvrir des textes, des auteurs.
Bien sûr.
Puis, j'ai aussi, à travers ça, des rencontres d'auteurs. Comme la semaine dernière, j'en ai animé une avec Hélène Dorion qui nous parlait de Jour de sable, un de ses récits. Ah, c'était une rencontre. Je me disais, je suis vraiment privilégiée. Bon. C'est pour ça que je ne vais pas prendre ma retraite.
Mais non, je comprends. Et vous comprenez aussi pourquoi je voulais que vous soyez mon invité à l'émission des livres pleins les oreilles depuis fort longtemps, parce que la lecture, vous en mangez. Et vous nous la partagez. Vous nous partagez merveilleusement l'actualité tous les matins à l'émission Au quotidien. Merci de le faire, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Et là, on est vraiment, grâce à vous, très au courant. J'ai 20 secondes pour vous dire au revoir. Alors, je vous dis au revoir et je suis obligée de grimper sur vous et sur vos mots pour remercier Brigitte Harrison, Lise Saint-Charles, Kim Thuy et Jean-Sébastien Pilote, ainsi que Jean-Sébastien La Liberté à la Technique. Je vous embrasse, Hélène Denis. Merci et bravo pour ce que vous faites. Des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles, l'émission qui ne se consacre qu'aux livres audio, qui est véhiculée par Balado, notamment par Apple Book, merci beaucoup, ainsi que par CKVL et bien sûr à Canal M puisque c'est une production de Canal M. Alors aujourd'hui, spécial livre de développement personnel, mais je vais ajouter personnel et collectif. Oui, je vais ajouter le doux mot de collectif qui rend, je trouve, l'expression personnelle un petit peu moins nombriliste. Surtout que les écrits qui sont écrits pour les uns sont généralement très instructifs pour les autres. Par exemple, l'autisme expliqué aux non-autistes. On s'entend pour dire que ceux et celles qui ne sont pas parents ou proches d'un ou de plusieurs enfants autistes ne comprennent rien à rien à la façon dont fonctionnent les personnes autistes et comment, comme nous le disait récemment Guylaine Gay, comment c'est un véritable langage qu'il nous faut apprendre. Alors pour célébrer à ma façon le mois de l'autisme et la sortie en audio dans le catalogue Vues et Voix du livre L'autisme expliqué aux non-autistes, eh bien j'ai demandé aux co-autrices Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles de se joindre à moi. Et à vous, ainsi qu'à Kim Thuy, maman d'un garçon autiste, Valmont, et qui a témoigné dans ce livre de quelques moments cocasses, et elle le fait toujours avec le sourire, comme on sait qu'elle est habituée à nous l'offrir, ce sourire ensoleillé. Et puis à l'émission, je vais profiter de cette occasion pour vous présenter Laurent. Laurent, c'est moi, jeune garçon autiste. Cela donne lieu également à un livre audio sorti chez Fonfon. Et puis, nous parlerons de retraite anticipée, loin de nous écœurer. Jean-Sébastien Pilote nous guide pour prendre une espèce de retraite à 40 ans, si on le désire. Oui, oui, à 40 ans. Entrevue et extrait à suivre, bien sûr, notamment avec Hélène Denis, animatrice à Canal M, grande lectrice à voix basse et à voix haute, qui va venir nous parler de son métier d'animatrice et de lectrice, mais aussi de lectrice de livres de développement personnel, comme ceux de Colette Portelance, qu'on retrouve au catalogue de Vues et Voix. Bref, il y a du stock, mes amis, aujourd'hui, et il y a beaucoup de livres à se glisser entre les oreilles.
L'autiste donne un autre sens au monde, mais n'est pas coupé du monde. Il est plutôt coupé du sens de l'information qu'il reçoit. Il faut voir l'autisme comme la surdité ou la cécité, parce que l'autiste est socialement aveugle. Les personnes autistes sont constamment renvoyées à leur propre personne. Elles peuvent en souffrir énormément, mais tentent néanmoins de s'adapter à leur environnement, tout comme les neurotypiques. Le fait d'avoir pensé l'inverse pendant des années a eu des conséquences cruelles pour les autistes. Dans les chapitres qui suivent, nous vous présentons des questions que pourraient poser des non-autistes, questions qui sont surgies de mythes courants et répandus et auxquelles nous apportons des éléments de réponse. Nous y développons une cinquantaine de notions propres au fonctionnement de l'autiste en proposant de nombreux conseils qui s'appuient sur une compréhension nouvelle des TSA, basée sur notre théorie du fonctionnement interne de l'autiste et qui commence à trouver de plus en plus écho chez les professionnels de la santé et de l'éducation.
On comprend tout de suite à quel point ce livre est important, l'autisme et l'autiste est socialement aveugle. Écrivez-vous, mesdames Harrison et Saint-Charles, bonjour.
Bonjour.
Oh, j'aime ça, une voix double comme ça. Est-ce que Kim est là aussi, Kim Thuy?
Ben oui, j'aurais pu le faire en même temps. On peut même le faire à trois.
Si allez, alors attention, faire. Alors à mon signe. Un, deux, trois, à vous.
Bonjour.
Oh, eh bien, je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. Non. Ouais. Alors, c'est ça, l'autiste est socialement aveugle. C'est une phrase qui résonne beaucoup, ça, dans mes oreilles. C'est peut-être celle qui résume le plus ce qu'est un autiste, pour faire mieux comprendre à nous qui ne le sommes pas ce qu'est l'autisme. Brigitte Harrison. Vous qui vivez avec l'état d'autisme, la condition. Donc, est-ce que pour vous, l'autiste est socialement aveugle? C'est la phrase qui résume peut-être le plus ce qu'est un autiste.
Plus je vieillis, plus je me demande si c'est nous, finalement, qui sommes socialement aveugles. À cause de la difficulté qu'on a à faire comprendre cet aspect-là aux non-autistes. Oui, on est socialement aveugle par construction, par condition. Mais c'est un truc qui peut être amené, qui peut se développer et qui peut aller beaucoup plus loin. Le cerveau autistique chez les plus atteints va les plus en difficulté, va d'abord ne pas lire la voix humaine comme telle ou la lire difficilement. Ce qui fait que toute la construction après est plus. Il faut donner un coup de pouce pour la construction après. Tandis que quand on a des autistes qui sont à l'autre bout du spectre et qui sont beaucoup moins. Ou l'autisme, même pas apparent presque. Mais qui ont énormément de difficultés à lire leurs propres émotions avec les émotions des autres. Fait que c'est les liens invisibles qui sont difficiles à faire et c'est causé par une difficulté à faire de l'abstraction, finalement.
Kim?
Ce n'est pas une fin de parcours.
Non, je comprends.
Quand on dit ça, contrairement à la cécité où la personne ne
bien
verra
sûr.
Pas plus, où la personne autiste va se construire quand même.
Kim Thuy, tu as accepté, Kim, de participer, de témoigner de moments de vie que toi, ta famille passée avec Valmont, ton fils autiste. Quand tu as pris connaissance la première fois de ce livre-là et de tout ce qu'il contient, de toutes ces formidables questions qui sont posées, t'as dû capoter, comme on dit, t'as dû adorer ça, non?
Est-ce que je peux le faire à l'envers, dans le sens où c'est moi qui a poussé mes filles à écrire?
C'est vrai! mais j'ignorais ça! Mais faut que je tape, mais faut que je tape sur la main de la recherchiste, autrement dit la mienne. Plouf,
ah non,
allez.
Non, mais c'est pas public, donc elle ne pouvait pas savoir. Mais sincèrement, parce que moi j'avais suivi les formations en personne et j'étais fascinée tout de suite, hein, émerveillée par ce que Brigitte et Lise présentaient devant moi. Et j'ai dit, mais il faut un livre. Et elles avaient déjà écrit un livre énorme, en fait. Je crois qu'il y avait 10 000 pages. Mais beaucoup plus difficile d'accès. Pour tout le monde. Oui, parce que c'était très, comment dire, très intelligent, très savant. Mm. Et donc, j'ai dit, écoute, pour une maman comme moi, qui vit dans le quotidien avec un enfant, j'aimerais avoir un livre qui vulgarise un peu les connaissances que Brigitte et Lise possèdent. Mmh. Et d'où la naissance de ce livre, qui est beaucoup moins volumineux déjà, mais qui répond de façon...
C'est totalement.
Sûr qu'il faut suivre la formation après pour pouvoir maîtriser le langage conceptuel, mais les premières notions. Hein?
Alors,
juste pour nous ouvrir les yeux un peu.
Kim, quand tu parles de formation, je vais me tourner vers Lise Saint-Charles. On parle là des formations qui sont données dans le cadre de SACAD qui a été créé, que vous avez créé.
Oui, effectivement, on a conçu notre propre programme de formation et avec SACAD, on est dans ce programme de formation-là, il est en route depuis 2007, donc ça fait quand même plusieurs années, bien avant l'arrivée du livre. Mmh. Et avec les années, ben, on a toujours continué de compléter, d'ajouter des éléments. Mmh. Et dans notre dernière année, ben, avec la COVID, on n'a pas le choix de faire autrement pour rejoindre les gens et on a transformer ça en e-learning qu'on appelle, ce qui fait que maintenant c'est accessible à tous, peu importe où ils sont sur la planète, où les gens se retrouvent sur la planète, et on devrait mettre en ligne assez prochainement un programme qui va être pour les parents.
Ah,
alors, on avait nos formations qui étaient grand public, si on veut, mais après ça, on a décidé de faire un petit parcours là, qui allait être pour les parents, donc avec des éléments beaucoup plus concrets peut-être pour eux, puis un peu facilitant, comme Kim vient de dire, par rapport au livre, rendre plus concret un peu.
J'ai reçu Guylaine Gay à cette émission il y a maintenant quelques semaines, qui a écrit deux garçons à la mer. Elle, c'est pas un, donc ce sont les deux qui vivent avec une condition d'autisme. Et Guylaine, elle me disait, c'est vraiment un langage à apprendre. Parce que j'imagine que lorsqu'on est des jeunes parents et qu'on nous apprend que notre enfant est autiste et qu'on ne sait pas du tout comment faire, ces gens-là, effectivement, vous êtes les personnes toutes indiquées pour qu'elles puissent se tourner vers vous et pour avoir de l'aide. Parce que, par exemple, allez pas chicaner un môme qui veut pas qu'on lui coupe les cheveux. Parce que quand il est autiste, il va pas vouloir qu'on lui coupe les cheveux. C'est bien ça. Donc, c'est essentiel. C'est vraiment un langage. Quelles sont les questions, Brigitte Harrison, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus par rapport à l'autisme? Et j'aurai peut-être une autre question après, mais je vais commencer par une seule pour le moment.
Les questions qu'on me pose le plus.
Non, mais qu'est-ce qui
comment
revient?
Comment communiquer?
Ouais. La communication.
Ouais, ben, d'abord, c'est quoi de l'autisme? Est-ce qu'il fait exprès?
Est-ce qu'il fait exprès?
Et c'est la première chose à savoir. Puis, vous savez, quand on parle d'une tête qui est connectée autrement, tout le monde peut dire la mienne n'est pas comme celle du voisin. Donc. Fait que c'est difficile de comprendre que c'est un jeu de synapses à l'intérieur. Donc, cet aspect-là, ça, c'est la première question. L'autre question que j'avais énormément et qu'on a réussi à démystifier avec les années, c'est « Avez-vous des émotions? »
Ah oui.
Celle-là, je l'adore.
Je l'avais noté d'ailleurs. Je l'avais noté. Les autistes et les émotions, il est faux de prétendre, écrivez-vous, que les autistes n'ont pas d'émotions, bien sûr.
Ouais. C'est que je commence toujours en disant, ben, on va parler des êtres humains. On va commencer comme ça.
Ah.
C'est que, parce que c'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu, j'arrive à 60 ans et j'en suis à me demander qui est aveugle sur le
oui,
terme-là, finalement.
Exactement.
Que, parce que la différence, il faut apprendre à la voir, il faut s'arrêter pour la comprendre, pas juste en autisme, mais dans plein de secteurs. Et quand on est dans des conditions, ben, ça demande un peu plus de concentration.
Je voudrais qu'on écoute, oui, je comprends, Brigitte, tout à fait. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait où l'on entend Kim qui témoigne des problèmes de coupe de cheveux avec Valmont. Problème presque solutionné, bravo. On écoute.
Nous étions deux à tenter de tenir Valmont en place pour lui couper les cheveux. Chaque fois, c'était un combat très difficile avec des hurlements de la part de Valmont et nous utilisions le clipper pour la rapidité et aussi la possibilité de raser le plus court possible afin de retarder la coupe suivante. Aujourd'hui, Valmont demande que je lui coupe les cheveux tous les soirs dans le bain. Je me limite à 10-15 coups de ciseaux, mais je pourrais en faire autant que nécessaire. Valmont me montre même les mèches à couper parce qu'il se brosse les cheveux en se regardant et se reconnaissant dans le miroir. Il est même arrivé deux fois où il s'est coupé lui-même les mèches rebelles.
Ah!
Ah, mais c'est plus que solutionné, hein, Clotilde.
Ah oui?
Aujourd'hui, j'ai marché pour aller acheter du pain. Je suis passée devant le salon de coiffure.
Oui.
Et vraiment, aujourd'hui, Valmont refuse ma coupe parce qu'il trouve que je coupe pas assez bien. Donc, il demande vraiment à aller chez la coiffeuse. Et
voilà.
Puis, il s'assoit hein, pour se faire couper les cheveux, pas seulement ça, mais il regarde même son père ou son frère se faire couper les cheveux avec beaucoup de calme. On dirait même, ouais, une petite sortie pour se faire du bien.
Wow.
Mais tout
bon.
Ça, c'est grâce au Langage Acad où il a compris l'opération, quoi. Que
ouais.
Ce n'était pas, bon, qu'il n'allait pas être au salon de coiffure pour le reste de sa vie ou sinon que le clipper, bon, enfin, tout ça, il comprend. Je ne sais pas comment, si j'ai bien réussi avec le langage conceptuel à lui expliquer tout ça, mais je crois que oui.
Mais c'est, oui, puis c'est ça en termes de langage, quand par exemple tu parles, quand il rentrait de l'école, que tu avais juste envie de le minoucher, de machin,
mm-hmm.
puis finalement, et puis qu'il y a une crise, quoi, c'était comme lâche-moi, puis là tu disais, mon fils, même pas, ben non, c'est simplement. Une chose à la fois, c'est bien ça. Il faut qu'il se réapproprie son territoire. En fait, c'est à lui à avancer et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Quoi. Est-ce que c'est ça, Lise Saint-Charles?
Que maintenant, on peut faire quelque chose. Oui, c'est pour ça.
Je suis en train d'écrire sur mon papier. Il y a confusion entre le langage pour lire l'autisme, pour comprendre, et le langage du quoi faire avec. Alors, si on
okay.
comprend... Alors, je vais vous démêler les deux avant que Jessie continue. Le langage dont vous parlez quand vous parlez de l'exemple de l'embrasser, c'est la lecture. Ah, je comprends qu'il est sourd, je ne vais pas lui parler à haute voix. C'est de
okay.
ça que vous parlez. Si, admettons, l'enfant était sourd.
Oui.
C'est de ce type de langage-là.
Okay.
Alors que nous, quand on parle de langage conceptuel, on parle de la langue des signes pour la communication.
OK.
Carrément. Donc, on parle d'une langue qui équivaudrait à la langue des signes pour la communication. Alors non, ça ne se fait pas en lisant uniquement l'enfant. Il faut que les deux apprennent à communiquer, et
ouais.
c'est ce que Kim a fait avec Valmont.
Oui, oui.
Ouais. Voilà, oui.
Ouais.
C'est un langage, c'est ça. Il ne faut pas oublier que c'est comme le langage des signes ou le braille. Il faut apprendre.
Apprendre.
Autant la personne autiste, ben, dans mon cas, la personne autiste, soit Valmont et moi. Parce que Valmont non plus, il ne connaissait pas ce langage. Donc, les deux, on a appris ensemble et on s'est trouvé un langage qui nous relie, qui fait le pont, en fait, entre les deux.
Voilà pourquoi...
Et...
Oui, pardon?
Non, ben, ce que je voulais ajouter, c'est que les gens, maintenant, peuvent reconnaître que la personne, elle est autiste.
Oui.
Et les gens disent qu'on doit apprendre à voir comment ces gens-là fonctionnent et avancent. Mais ce qu'on a trouvé avec Saccade, qui est vraiment, je pense que c'est, ben moi je suis convaincue que c'est une clé qu'on a trouvée en autisme. Et on a comme trouvé comment faire pour être capable de rentrer en communication avec la personne autiste et aller retour. Pas simplement lui donner beaucoup d'amour puis de l'accepter dans la maison comme elle est, cette personne-là, mais on a maintenant une clé pour être capable de pouvoir l'amener à ce que, bon, dans l'exemple de la coupe de cheveux, Kim a fait son travail et Valmont a fait son travail de son côté pour être capable de comprendre le sens qui est derrière tout ça, cette situation-là. Et c'est ça qui est nouveau, je vous dirais, avec Saccade, là.
J'espère, Brigitte, Lise et Kim, que les gens qui nous entendent en ce moment seront convaincus de l'utilité, d'une part, d'aller sur votre site Saccade, comme une saccade, et d'autre part, ben, de vous procurer ce livre-là qui est vraiment très bien fait, qui est très vulgarisateur, c'est-à-dire
pardon.
Oui, voilà, c'est ça, accessible. Question simple. Comment est-ce qu'on fait comprendre l'autisme? Comment est-ce qu'on fait? Vraiment, ce sont des questions de tous les jours. Et si je vous ai bien entendu, vous en préparez un autre qui sera encore plus simple et vous préparez d'autres formations qui seront utiles absolument à tout le monde, à commencer par les enfants autistes eux-mêmes et leurs parents. C'est bien ça?
En formation, effectivement. Bon. Et le livre, L'autisme expliqué, est maintenant traduit dans plus d'une dizaine de langues. Alors, il faut croire que ça répond à la population.
Un besoin. Oui. On va se quitter sur une question très précise, et puis tant pis, je ne pense pas que la réponse sera très courte, mais ça ne fait rien, je vais m'organiser pour la suite. Vu que moi, je connais mal, honnêtement, ce monde-là, sauf peut-être à cause du livre, grâce au livre que j'ai lu de vous, mais... Les livres audio, est-ce qu'un enfant autiste sera peut-être plus enclin à écouter un livre audio qu'à lire un livre? Ou alors vraiment, on dit que ça passe par les yeux chez l'enfant autiste? Brigitte Harrison.
C'est une question hyper brillante. Un enfant autiste qui apprend un livre audio va l'apprendre par cœur. Un enfant autiste qui voit un livre et qui peut le lire et dessiner en graphique sur une espèce de compréhension va intégrer la lecture du livre.
Donc, c'est à mettre entre toutes les oreilles et avant tout aussi dans les oreilles de parents de jeunes autistes ou d'autistes eux-mêmes. C'est ce que vous êtes en train de me dire?
Non, c'est surtout pour les non-autistes, les livres audio.
Ah, OK. Bon.
Ouais.
Oui, parce que sinon, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'apprendre par cœur, mais il ne va pas forcément intégrer les informations, c'est ça?
Et voilà.
Ben là, je viens d'admettre et de faire la preuve mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Hein. Moi, je suis la première à le dire et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, toutes les trois, de nous ouvrir un petit peu plus les yeux à cette réalité-là. Le bouquin existe en audio maintenant, il existe sur papier en 10 langues différentes et Saccade existe aussi, alors allez-y pour vous faire du bien. Seigneur, pour apprendre. Voilà. Merci, mesdames.
Oui, mais Clotilde, parents qui ne sont pas autistes peuvent écouter le livre.
Oui, mais oui, c'est sûr.
Et apprendre.
Mais tu sais, exactement. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit en début d'émission qu'il est intéressant, quand on parle de développement personnel ou de livres de formation, que de toute façon, s'il est écrit pour les uns, c'est pour que les autres apprennent. Donc, il faut que...
C'est déjà à découvrir.
Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous trois. Je vous embrasse, je vous serre fort, surtout que virtuellement, j'ai le droit, na. Et puis...
Merci beaucoup.
Merci de rien.
Merci Clotilde.
Gros bisous.
Au revoir.
Bye.
Bye.
On va rester sur l'autisme en cette première partie et on va rester surtout dans le domaine du livre audio à l'émission des livres pleins les oreilles que vous écoutez en ce moment avec Laurence et moi. Laurence et moi, c'est un livre audio signé Stéphanie Deslauriers, illustré par Geneviève Després et il y a là-dessus un environnement sonore de Marc-Antoine Perreda et c'est lu par Damien Lemire et c'est sorti aux éditions Fonfon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais reçu Véronique Fontaine qui préside à ces éditions Fonfon et comme je l'avais dit, qui font peu mais qui font bien. Et ce récit, Laurence et moi, eh bien, c'est celui qui aborde, c'est un récit très sensible, nous dit-on sur le site internet de Fonfon, qui aborde l'autisme de manière franche et empathique et qui a marqué plusieurs esprits depuis la sortie du livre sur papier au printemps 2019. Il a notamment, ce livre était finaliste de plusieurs prix, dont celui du gouverneur général pour la catégorie jeunesse. Et Laurent, c'est moi, est désormais encore plus accessible dans son format audio, avec encore une fois cette musique enveloppante. D'ailleurs, que je vous laisse découvrir. Voici un extrait de Laurent, c'est moi, aux éditions Fonfon, en collaboration avec le studio Bulldog.
Allez hop, Laurent, c'est l'heure du bain. Encore? Je l'ai déjà pris il y a 1440 minutes. Eh oui, ça revient chaque soir. Après quelques détours vers le salon, ma chambre, puis celle de mes parents, je plonge dans l'eau chaude. Équipé de mon masque, je deviens alors un explorateur marin. Je découvre de nouveaux coraux jusqu'à ce que... Sauf qui peut, un requin! Parfois, j'ignore les trois petits coups de maman à la porte de la salle de bain pour me rappeler que c'est l'heure de sortir. Mais pas ce soir. J'ai hâte de me coucher pour que demain arrive plus vite.
Voilà, Laurent, ce petit autiste, très bien interprété par le jeune Damien Lemire aux éditions Fonfon. J'ai le temps pour vous présenter aussi Asperger et Fier de l'être. C'est un voyage au cœur d'un autisme pas comme les autres. Voyage, c'est Alexandra Reynaud qui vit avec la condition d'autisme, qui en est l'auteur. C'est Marion Nguyen qui l'a lu. Et ça nous donne là encore une autre bonne occasion de comprendre à quel point un autiste et un non-autiste, ça n'arrive pas à communiquer, y compris dans les bureaux de médecins.
Le généraliste se tortille dans son fauteuil et me fixe en écarquillant les yeux. Semblant désespérément guetter sur mon visage un signe, un sourire providentiel qui lui indiquerait que je le taquine. Vous, autiste ? Sa réaction ne me surprend pas. Je m'y suis habituée en vérité, ayant eu à y faire face à plusieurs reprises depuis que j'ai reçu ce diagnostic. Bien qu'il ne me connaisse presque pas, il ne comprend pas. Il n'y croit tout simplement pas. Je devine ce qui traverse sans doute son esprit à cet instant. Ce qu'il voit de moi ne colle pas avec l'image qu'il a de l'autisme, avec un grand A. Mais que voit-il de moi ? Assez peu de choses en définitive. Seulement ce que je veux bien lui montrer, au prix d'énormes efforts intérieurs, une fois, deux, tout au plus dans l'année, sur quelques minutes. Mais ça, il l'ignore totalement. La plupart des gens n'ont pas à se forcer pour sembler normaux. Ils le sont. Moi, je calcule tout. Je copie tout, à la manière d'un faussaire. Or, le syndrome d'Asperger est ce que l'on appelle couramment un handicap invisible. Le médecin, toujours incrédule, répète. Vous dites que vous avez reçu un diagnostic d'autisme ? Oui, c'est bien ça, lui dis-je, en poussant du bout des doigts en sa direction l'épais compte-rendu rédigé par l'unité diagnostique pour adultes. Je jurerais qu'il regrette de ne pas voir s'animer, au rythme du souffle de la trentaine de pages, un petit dessin dans le coin droit de mes documents.
C'est un livre à lire, nous dit un auditeur, qui l'a écouté et qui a écrit cette critique, je vais y arriver. Il faut lire ce livre, a-t-il dit, aussi pour sa puissante incitation à accepter d'être soi-même, car l'anticonformisme n'est pas une maladie et il n'y a pas qu'une seule manière d'être au monde, la neurodiversité est une richesse. Alors, je vous rappelle que ce livre est signé Alexandra Reynaud. C'est une production exclusivité que vous trouverez sur Audible. Ça a été enregistré en 2017. Asperger est fier de l'être, lu par Marion Nguyen. Alors, restez avec moi. Là, on va parler en début de seconde partie de la retraite à 40 ans et on se demande si c'est possible. Bon, on va tout de suite s'entendre sur le mot retraite. Il n'est pas question d'arrêter de travailler, sauf si vous le désirez, et de profiter des millions que vous aurez mis en banque depuis que vous êtes tout petit. Bon, ça, c'est une chose. Mais si vous voulez à continuer parce que vous aimez votre boulot, ben, il n'y a pas de souci. C'est sûr que quand on parle de la retraite à 40 ans, on parle en fait de cet état de richesse qui nous permet de ne pas nous faire de soucis. OK ? Alors restez avec nous.